Radio Vatican, France et Afrique.
Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de notre programme. Dans cette édition, nous vous ferons part des audiences du Saint-Père avant de nous rendre notamment au Sénégal, au Nigeria et au Bénin pour nous enquérir des nouvelles de l'Église Famille de Dieu. Quant à l'actualité sociopolitique, elle nous conduira entre autres en Guinée, en Éthiopie et en Afrique du Sud. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonnes conditions d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le Saint-Père a reçu vendredi en audience privée le président de l'Irlande, M. Michael Higgins, qui a ensuite rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, accompagné de Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Au cours de ces entretiens cordiaux, un certain nombre de questions d'intérêt commun ont été abordées, telles que les migrations et la protection de l'environnement, avec une attention particulière aux perspectives de la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP26, qui se tiendra à Glasgow. Il y a également une réflexion commune sur les conséquences de la pandémie de coronavirus et l'avenir de l'Europe, et enfin le renforcement du processus de paix dans le pays. Le pape a également reçu le cardinal Gualtiero Bassetti, archevêque de Perugia Città della Pieve, puis Mgr Nicola Ghirasso, nonce apostolico Pérou, et enfin les participants à la rencontre promue par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation sur les thèmes catéchèse et catéchiste pour la nouvelle évangélisation. À ces derniers hôtes, François a rappelé l'importance d'annoncer la bonne nouvelle sans faire du catéchisme une communication abstraite ni un objet de musée. Adélaïde Patrignani nous en parle.
Le Saint-Père a d'abord souligné la centralité de l'Eucharistie dans la catéchèse pour montrer son lien étroit avec la vie quotidienne. Car il ne s'agit pas d'une communication abstraite de connaissances théoriques à mémoriser, a expliqué le pape, mais d'une rencontre progressive des personnes à qui l'on transmet le cœur de la catéchèse « Jésus-Christ ressuscité vous aime et ne vous abandonne jamais ». Un catéchiste est un disciple missionnaire, a aussi rappelé le souverain pontife. Son ministère, car c'en est un depuis mai dernier, annoncer l'évangile de la miséricorde, créer des liens d'accueil et de proximité, conduire vers la parole de Dieu et le mystère eucharistique, et surtout ne pas se contenter d'une simple répétition du passé. N'est-ce pas la tâche la plus urgente de l'Église parmi les peuples d'Europe, a lancé François, et de mettre en garde, la grande tradition chrétienne du continent ne doit pas devenir une relique historique, sinon elle n'est plus une tradition. Le catéchisme est une tradition vivante, il demande donc d'être passionné et créatif avec l'aide de l'Esprit-Saint, un esprit qui aide aussi à ne pas écouter les personnes superficiellement en pensant déjà à des réponses toutes faites. Le pape a conclu en remerciant chaleureusement les milliers de catéchistes en Europe, ceux qui commencent ces jours-ci leur mission. Je pense à chacun d'entre eux, a assuré François.
Le synode des évêques de l'église patriarcale d'Antioche des Grecs, Melkite, a élu le révérend archimandrite Georges Massri, qui était jusqu'à présent Saint-Sylus de la même circonscription, comme archevêque métropolitain d'Alep en Syrie, auquel le Saint-Père avait accordé son assentiment. L'Assemblée générale annuelle de l'Union du clergé sénégalais, organisée à Kolda après l'arrêt de l'année dernière, en raison de l'urgence Covid-19, s'est terminée vendredi. Environ 150 prêtres venus de tout le pays ont discuté sur l'investissement et la croissance économique au Sénégal, défis, problèmes et opportunités pour l'entrepreneuriat, partageant des moments de fraternité et de prière. Pendant les travaux, rapporte le portail du diocèse de Thiès, le professeur Joseph Cabral, associé à la faculté d'économie et de gestion de l'université tchèque Antadiop de Dakar, a parlé des investissements et de la croissance économique à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, tandis que Barthélémy Fay du cabinet d'avocats Cléry Gottlieb, qui accompagne le gouvernement sénégalais dans l'un des projets du modèle de développement plan Sénégal émergent, a souligné les défis auxquels l'Église est confrontée pour concilier les questions liées au financement, à la qualité du capital humain, à l'information économique et à la sécurité juridique et à la doctrine sociale de l'Église. Le père Vincent Boulousluka, le prêtre du diocèse de Kafanchan au Nigeria qui avait été enlevé lundi dernier dans le presbytère de l'église Saint-Matthieu à Anshuna dans l'état de Kaduna a été libéré. Le père Emmanuel Uchechukwu, chancelier du diocèse, l'a fait savoir dans une déclaration publiée jeudi. Rappelant que le curé de l'église Saint-Matthieu a passé 2 jours dans la brousse avec ses ravisseurs. Les évêques du Kenya ont fait part de leur inquiétude concernant les violences en cours à Laikipia, Kerio Valley et Marsabit, des régions qui relèvent respectivement des diocèses kenyans de Nyahururu, Kitale et Marsabit. Dans leur déclaration collective du mercredi 15 septembre, les membres de la conférence des évêques du Kenya ont aussi déclaré leur sympathie à l'égard des personnes touchées par la violence qu'ils qualifient de politiquement motivées. Direction à présent République démocratique du Congo, où notre correspondant local nous parle d'une session sur la gestion des finances et du patrimoine de l'Église et de la retraite spirituelle du clergé de Bassankusu dans la province de l'Équateur.
Le clergé de Bassankusu dans la province de l'Équateur est réuni ces jours-ci autour de l'évêque Monseigneur Joseph Mokobe au centre spirituel Nganda Ebale de Bonkita. Les prêtres participent à une session sur la gestion des finances et du patrimoine de l'Église. Des audits externes et internes seront bientôt effectués dans les structures du diocèse. Du 5 au 13 septembre, les prêtres diocésains et religieux ont participé à la retraite sacerdotale annuelle animée par Monsieur l'abbé Jean-Pierre Nguilima sur le thème « Pour une église synodale, communion, participation et mission ». Monsieur l'abbé Jean-Pierre Nguilima a expliqué que l'église existe et vit grâce à la convergence et à la participation de tous ses enfants. Le synode des évêques, a-t-il dit, est donc cet instrument de l'église qui favorise le vivre ensemble, le marcher ensemble, le travailler ensemble, le fêter ensemble et le souffrir ensemble. La synodalité commence dans le cœur de chacun et dans la famille. Et le prêtre qui ne vit pas en communion avec son sacerdoce ne saura pas non plus marcher avec les autres prêtres. Deux moments ont marqué la clôture de la retraite sacerdotale annuelle de Bassankusu. D'abord, la séance de correction fraternelle organisée par groupe de promotion. Ensuite, des résolutions et recommandations élaborées et qui ont été approuvées par l'évêque. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Bénin, notre correspondant revient sur la célébration du centenaire de la Légion de Marie dans l'archidiocèse de Cotonou.
Ils étaient venus de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Cotonou au Bénin, les membres de la Légion de Marie, pour rendre grâce à Dieu pour le centenaire de leur association. C'était le dimanche 12 septembre 2021, en l'église paroissiale Saint-Pierre de Tocan, avec la messe jubilaire, présidée par l'ordinaire du lieu, l'archevêque Monseigneur Roger Rungwedi. Mais qui sont-ils et que font-ils au sein de l'église catholique?
La Légion de Marie est une association d'action catholique formée de catholiques militants qui, en dépendance totale de Marie Immaculée, médiatrice de toute grâce, sous la direction de l'autorité ecclésiastique, s'efforce d'aider l'Église dans son œuvre pastorale. Elle est présente sur tous les continents et au Bénin, elle couvre toutes les paroisses du diocèse dont vous avez la charge. Elle poursuit double but: la sanctification personnelle de ses membres et la pratique de l'apostolat pour la conversion du monde.
Le prélat en a profité à l'homélie pour les instruire.
Vous êtes aujourd'hui les pionniers du prochain centenaire, les protagonistes dont la fécondité de vie permettra à la Légion de Marie de porter des fruits en abondance jusqu'au retour glorieux du Christ.
Guy Dosuovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Une mission ouest-africaine de haut rang s'est rendue vendredi en Guinée avec l'exigence de la tenue d'élections dans les 6 mois, un délai a priori peu compatible avec les vues des militaires qui ont pris le pouvoir par la force. Cette mission de haut niveau est conduite par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. Y prennent part également les chefs de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kazibrou. Le président américain Joe Biden a signé vendredi un décret qui permettra à son administration de prendre des sanctions contre les protagonistes du sanglant conflit dans la région éthiopienne du Tigré s'ils ne s'engagent pas vers une solution négociée. Ce conflit est une tragédie, a estimé Joe Biden dans un communiqué, se disant horrifié par les informations sur des meurtres de masse, de viols et d'autres violences sexuelles destinées à terroriser les populations civiles. Par ailleurs, des centaines de camions ayant transporté de l'aide humanitaire ne sont pas revenus de la région éthiopienne du Tigré en proie à la guerre depuis novembre, ce qui empêche de répondre aux besoins urgents de la population, a déclaré vendredi le Programme alimentaire mondial. La Cour constitutionnelle sud-africaine a rejeté vendredi de manière cinglante la requête de l'ancien président Jacob Zuma qui lui demandait de revenir sur sa décision le condamnant à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Cette confirmation de la condamnation de M. Zuma ne remet pas en cause la libération conditionnelle dont il a bénéficié pour raisons médicales début septembre. Le président de la Guinée équatoriale a étendu vendredi de manière drastique l'obligation vaccinale, réinstauré un couvre-feu et durci les conditions de voyage en invoquant une troisième vague inquiétante de COVID-19 dans ce pays d'Afrique centrale. Le décret impose désormais un cycle complet de vaccination à tous les fonctionnaires alors que seuls ceux relevant de la santé, de la sécurité et de l'éducation y étaient soumis, mais aussi et surtout à toute personne qui effectue physiquement une démarche auprès d'une administration. Même obligation pour tout étudiant de plus de 18 ans pour s'inscrire dans une école ou à l'université.
Radio Vatican, Français-Afrique, Donatien Niembo.
Les dirigeants des 5 États semi-autonomes qui constituent la Somalie ont appelé vendredi le président et le premier ministre dont le conflit ouvert menace la stabilité du pays à discuter et à résoudre leurs différends par la médiation. Le président Mohamed Abdulali Mohamed Difar Majo et son premier ministre Mohamed Hussein Roble se livrent depuis près de 2 semaines à une escalade inquiétante dans ce pays de la Corne de l'Afrique, rongé par une impasse électorale récurrente et une insurrection djihadiste qui dure depuis 2007. 9 civils ont été tués et 23 blessés dans une récente frappe aérienne au Nigeria, objet d'une enquête de l'armée selon un premier bilan officiel communiqué vendredi par les chefs de l'organisme local de gestion de crise. Plusieurs habitants affirment que 10 villageois ont été tués et au moins 19 blessés mercredi quand un appareil de l'aviation nigériane a ouvert les feux mercredi sur les villages de Bouhari dans l'état nigérian de Yobe. L'armée de l'air nigériane a reconnu jeudi avoir envoyé la veille un avion dans cette zone longeant la frontière entre le Nigeria et le Niger pour répondre à des activités terroristes présumées. Sans donner de bilan, elle a dit enquêter sur des affirmations faisant état des civils tués par erreur. 2 projets de loi d'amnistie pour les coups d'État d'août 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, puis de mai 2021 contre le président de transition Bandao ont été adoptés jeudi, a-t-on appris des sources gouvernementales et parlementaires. Ces projets de loi ont été votés par le Conseil national des transitions qui tient lieu du Parlement par 99 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, a annoncé le ministère de la Justice dans un communiqué. Désormais, aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée contre les auteurs des infractions, a expliqué le président de la commission de loi du CNT, Souleymane D.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Place à présent à Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui nous présente le magazine sur l'actualité internationale au cours de la semaine.
Dans le cadre de notre magazine, voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. Les États-Unis, qui cherchent à renforcer tous azimuts leurs alliances face à la Chine, ont annoncé mercredi avec l'Australie et le Royaume-Uni un vaste partenariat de sécurité dans la zone Indo-Pacifique, comprenant notamment la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire à Canberra. La décision de l'Australie de se doter de sous-marins à propulsion nucléaire constitue une grande déception pour Naval Group, a réagi mercredi l'industriel de défense français qui voit un contrat de 50 milliards de dollars australiens, soit 31 milliards d'euros, torpillé par cette annonce. Le premier ministre australien Scott Morrison a confirmé jeudi la rupture de ce contrat. La Corée du Nord et la Corée du Sud ont procédé toutes deux mercredi à des tirs de missiles dans ce qui ressemble à une véritable course à l'armement entre ces deux pays toujours techniquement en guerre. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence mercredi à huis clos pour évoquer les derniers tirs de missiles balistiques menés par la Corée du Nord qui suscitent la préoccupation de ses membres face à cette menace majeure pour la paix, selon l'ambassadeur français auprès des Nations Unies. La justice russe a condamné mardi à de nouvelles amendes Facebook et Twitter en pleine offensive contre des géants américains de l'Internet, accusés notamment d'ingérence à l'approche des législatives de cette semaine. Les talibans ont remercié mardi la communauté internationale après une réunion d'urgence qui a permis la veille de réunir 1,2 milliard de dollars pour l'Afghanistan, promis à une catastrophe humanitaire si les bailleurs ne se mobilisent pas. La Banque centrale afghane a annoncé mercredi avoir retrouvé 12,3 millions de dollars chez d'anciens membres du gouvernement à l'heure où le pays, contrôlé depuis un mois par les talibans, fait face à une pénurie de liquidités. Le mécontentement de propriétaires spoliés s'est élargi mercredi en Chine contre le géant national de l'immobilier Evergrande, dont la santé financière ne cesse de préoccuper. Deux personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées lors d'un tremblement de terre peu profond jeudi matin dans la province du Sichuan, sud-ouest de la Chine, ont annoncé les autorités. Après un an et demi de suspension, les négociations entre le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez et les indépendantistes catalans destinés à trouver une issue à la crise séparatiste en Catalogne ont repris mercredi, mais prendront beaucoup de temps selon Madrid, tant les positions sont radicalement différentes. L'Iran a adressé un message de fermeté aux Occidentaux en démettant son actuel négociateur en chef sur le dossier du nucléaire de ses fonctions de vice-ministre des Affaires étrangères pour le remplacer par un ultra-conservateur hostile à toute concession sur la question. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé mercredi ses chantiers prioritaires, appelant à renforcer l'autonomie industrielle de l'Union européenne tout en accélérant la construction d'une union de la défense. La Cour pénale internationale a autorisé mercredi une enquête sur la guerre antidrogue du gouvernement philippin marquée par des milliers de meurtres commis par les forces de l'ordre, pouvant constituer, selon les juges, des crimes contre l'humanité, enquête à laquelle le président philippin Rodrigo Duterte ne coopérera pas, a réagi jeudi son avocat. Le gouvernement britannique a décidé de reporter l'introduction des contrôles douaniers complets sur les importations en provenance de l'Union européenne dans une démarche pragmatique alors que le Royaume-Uni est déjà confronté à des difficultés d'approvisionnement. Trois agences de l'ONU, la FAO, Agriculture et Alimentation, le PNUD, Développement et le PNUE, Environnement, ont lancé mardi un pavé dans la mare des soutiens à l'agriculture, estimant qu'ils engendrent trop souvent des effets dommageables pour l'environnement ou la santé et appelant à les réorienter afin de les rendre plus efficaces et plus justes. Menace d'inculpation contre limogeage, l'enquête sur l'assassinat en juillet du président haïtien a de nouveau tourné à la confusion mardi, exposant au grand jour les luttes intestines à la tête du pays. L'Ukraine a annoncé mardi la mort d'un de ses soldats sur le front, l'opposant aux séparatistes pro-russes, le quatrième en trois jours dans cette zone en proie à une nouvelle flambée de violence.
Environnement, c'est notre rubrique du jour, Marie-Josée Mwando, Boisboileau.
Commençons notre rubrique par la sauvegarde de la création. En France, des résistants achètent la forêt pour la sauvegarder. Il faut sauver ce qui peut encore l'être. Dans le Morvan, territoire rural du centre de la France, des citoyens rachètent des forêts traditionnelles de chênes, hêtres et autres châtaigniers pour empêcher leur destruction au profit d'arbres résineux, plus rentables mais catastrophiques pour la biodiversité. C'est une catastrophe écologique et visuelle en rage, Régis Linterperg de l'association Adrette Morvan qui lutte contre l'enrésinement. Les coupes rases libèrent du carbone, assèchent les ressources et appauvrissent les sols, ce qui empêche plus d'une ou deux replantations. Ces terres fournissent une grande partie des sapins de Noël en France, y compris l'arbre géant qui trône chaque année à l'Élysée, la résidence du président de la République française. Jadis marginaux, les résineux représentaient en 2016 47% des 155 000 hectares de forêt de Morvan. Entre 2005 et 2016, 4 270 hectares de feuillus ont été rasés et 10 860 hectares de résineux plantés selon le parc régional du Morvan. La crise du climat tue, nous sommes en grève de la faim pour une durée illimitée, proclame en lettres rouges une banderole suspendue à l'une des tentes montées sur une esplanade de verdure entre la chancellerie et le Reichstag à Berlin, en Allemagne. Au milieu du campement, 6 jeunes activistes encadrés par une équipe de soutien ont cessé de s'alimenter depuis la fin août. Une mesure radicale pour alerter sur la catastrophe climatique dans laquelle l'humanité se débat. Preuve en est les inondations meurtrières qu'a connues l'Allemagne à la mi-juillet et que les experts relient directement au changement climatique. Le réchauffement de la planète engendrera aussi son lot de famine, selon eux, d'où l'idée de se priver volontairement de nourriture. Âgés de 18 à 27 ans, lycéens ou étudiants, ces jeunes venus de toute l'Allemagne estiment appartenir à la dernière génération qui peut encore agir. Ensuite, souligne-t-il, en s'appuyant sur des rapports scientifiques, les conséquences dramatiques du réchauffement climatique seront irréversibles. En Tunisie, des citoyens en révolte contre la pollution marine. Il y a des coquillages morts et des poissons morts. On ne peut plus nager pour protester contre la pollution de la mer. Des centaines de citoyens ont formé une impressionnante chaîne humaine sur 5 plages de la banlieue sud de Tunis. Sur le sable de Rhades et Zahra, Hammam, Lif, Hammam Chott et Borj Sedria, une bande côtière de 13 km où vivent 300 000 personnes, de nombreux Tunisiens ont répondu dimanche à l'appel d'action citoyenne. Depuis 2 ans, cette ONG se mobilise contre le déversement dans la mer, le plus souvent sans aucun traitement préalable des eaux usées de ces villes côtières. La chaîne humaine vise à dénoncer l'état dégradant de notre mer, qui est polluée bactériologiquement et devenue un danger pour la santé. Avec 3500 participants revendiqués par les organisateurs, cette mobilisation a représenté la plus grande chaîne humaine de l'histoire de la Tunisie, affirme Inès Labiad, responsable en justice environnementale au Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, qui a porté un soutien technique à l'organisation de cette action. Selon Madame Labiad, toutes les plages de Tunisie sont plus ou moins polluées, mais la pollution marine en banlieue sud est l'une des plus graves de toute la Tunisie, pire encore que celle provoquée par le pôle pétrolier de Sfax ou le pôle chimique de phosphate de Gabès. Parmi les plages polluées, celle d'Hammam Lif était autrefois la plage des Beys. Les gouverneurs de Tunisie sous l'Empire ottoman qui avaient construit des magnifiques palais. Élus locaux et organismes publics se renvoient la responsabilité de ces défaillances. Plusieurs municipalités ont annoncé des plaintes contre l'ONAS et Action citoyenne a constitué un dossier avec des avocats pour poursuivre l'État tunisien avec le soutien de ces organismes. présent à la manifestation Badreddin Sbidi numéro 2 du conseil municipal à Ezardra, souligne les répercussions sur le commerce et l'économie locale. Même le poisson, les gens ne le consomment pas, dit-il, avant d'ajouter dans un soupir, la mer est un don de Dieu et nous sommes des victimes. Des soldats et des secouristes sont venus en aide mercredi à des milliers de victimes des inondations dans le centre du Mexique qui ont entraîné la mort dans un hôpital de plus d'une douzaine de malades du COVID-19. L'inondation a touché environ 39 000 résidents de nombreuses maisons ayant été inondées en quelques minutes.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, ici s'achève cette édition de notre programme que vous a présenté Donatien Niembo. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi.